Je suis ravi d'être là, merci de m'avoir invité. J'espère que ce que je vais vous dire sera suffisamment court pour qu'on puisse avoir un temps de discussion à la fin, mais n'hésitez pas à m'interrompre pour des questions d'explicitation si ponctuellement vous avez un point qui vous chagrine et que je pourrais expliciter sur le champ. Alors, j'ai intitulé ça effectivement Approche par compétences, un cadre théorique pour étayer les pratiques, avec l'objectif, bien sûr, de présenter un cadre théorique parce que ça me paraît absolument incontournable pour faire de l'approche par compétences, mais surtout pour faire en sorte que vous voyez bien à travers ce que je vous dis comment sur le terrain on peut opérationnaliser ça de différents points de vue. Alors, un mot de présentation pour que vous voyez d'où je parle et ce qui m'a amené à être là aujourd'hui. Alors d'abord, pour dire que du point de vue de mon parcours, j'ai commencé en tant que maître formateur, j'ai commencé ma carrière en tant que maître formateur. Avant d'aller à l'université pour enseigner la psychologie du développement, et j'ai été dans ce cadre-là responsable d'un master pro pendant plusieurs années. Donc j'ai aussi une expérience particulière dans ce master pro d'une approche par compétences. Je ne vous en parlerai pas directement, mais évidemment, il y aura la possibilité de m'interroger aussi là-dessus si vous êtes intéressé par tel ou tel aspect de ce que je vous aurai présenté. Et puis maintenant, je suis retraité, actif toujours parce que c'est parce que je suis à la retraite que j'ai pu enfin publier un certain nombre de choses que j'avais sous le coude depuis plusieurs années. Et je suis donc toujours membre associé du Centre de recherche en psychologie, cognition et communication de l'Université Rennes 2. Du point de vue de mes préoccupations, évidemment, en tant que maître formateur, j'avais des questions relatives aux apprentissages. Ça m'a amené d'ailleurs à aller à l'université pour faire ma thèse. Et au cours de cette carrière universitaire, j'ai essentiellement travaillé sur la résolution de problèmes, ma thèse portait là-dessus, et puis ensuite sur la notion de compétence que j'ai abordée dans les années 2000. Et bien sûr, maintenant, ce qui me préoccupe avant tout, c'est de mettre à disposition ce que j'ai pu élaborer d'un point de vue théorique et du point de vue des opérationnalisations pour faire en sorte que tout ça ne reste pas simplement un travail d'universitaire, mais que ça puisse servir sur le terrain et en particulier sur le terrain de la formation. Deux modèles que j'aurai l'occasion d'aborder dans le cadre de cette conférence, que j'ai élaboré autour de la notion de compétence. Un premier que j'ai intitulé MADEC pour modèle d'analyse dynamique pour décrire et évaluer les compétences. Et puis MADIC qui est dérivé de MADEC et qui est un modèle d'aide au développement individuel des compétences. Donc je vais revenir sur ces deux modèles pour préciser un petit peu en quoi ils apportent des éléments théoriques qui manquent, à mon avis, dans l'approche classique par compétences. Alors, je disais que j'avais été amené à publier pas mal de choses, donc voilà une liste de publications. Je souligne ici celle que j'ai notée en jaune pour indiquer que vous trouverez dans cet article-là à la fois les fondements théoriques et les précisions que vous n'aurez pas nécessairement à travers ce que je vais dire sur la notion de compétence. Cette liste de références bibliographiques, j'avais demandé à Catherine de la polycopier, donc elle sera à votre disposition, et puis vous l'avez de toute façon à travers les documents auxquels vous avez accès. Alors, pour ce qui est de mon intervention, dans un premier temps, je vais présenter ça en trois parties. Dans un premier temps, je vais essayer d'aborder très rapidement la question des enjeux de l'approche par compétences. Dans une deuxième partie, je vais présenter le cadre théorique, et notamment le cadre théorique pour faire une approche par compétences étayée théoriquement, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis, dans un troisième point, plus long, j'essaierai de montrer comment on peut opérationnaliser un certain nombre de choses à partir de là. Alors, premier point. Autour des enjeux sur l'approche par compétences, la première chose qui me semble importante de souligner, c'est que cette approche par compétences bouleverse un petit peu les choses dans le sens où elle met en quelque sorte, de fait, fin à la suprématie des savoirs et des connaissances dans les pratiques d'enseignement. Du coup, on s'interroge plus spécifiquement sur la question des activités, et des activités de deux types, me semble-t-il. Les activités d'apprentissage, d'un côté, hein, parce que faire une approche par compétence, c'est bien s'intéresser à la manière dont les apprenants s'y prennent pour traiter les tâches qu'on leur propose de traiter. Et d'autre part, une approche par compétence suppose également de se focaliser sur l'activité future des étudiants. Alors, en général, on interprète futur comme étant une activité professionnelle nécessairement. Alors, bien sûr, cet aspect-là est important, mais une activité future, ça peut être tout simplement l'activité d'un étudiant de troisième année quand on est en deuxième année. Hein, donc, on n'est pas obligé de décliner cette activité future comme étant nécessairement une activité professionnelle. J'insiste beaucoup là-dessus parce que, justement, l'une des polémiques qui traîne autour de l'approche par compétence tend à privilégier cette idée que l'approche par compétence, c'est nécessairement par rapport à des préoccupations professionnelles et par rapport à l'entrée sur le marché du travail. Et je pense qu'on peut très bien adapter tout ça à la construction de compétences qui sont simplement celles qu'on vise pour la poursuite du parcours universitaire, puisque là on s'adresse à des étudiants d'université. Alors la première polémique qui me semble importante, c'est celle qui porte sur l'opposition entre un enseignement, on va dire, expositif, une pédagogie qu'on va qualifier de pédagogie traditionnelle, où on fait cours, et une deuxième polémique me semble renvoyer plutôt à l'idée que la formation académique de l'université telle qu'on l'a connue jusqu'ici va perdre son pouvoir, va perdre sa qualité au bénéfice d'une approche qui serait pilotée par les besoins du marché du travail. Donc avec cette opposition formation académique, formation utilitariste. Je pense que ces deux polémiques souffrent toutes les deux d'un manque de réflexion sur la notion de compétence, parce qu'on est parti sur la notion de compétence avec des conceptions qui sont relativement empiriques, qui partent de définitions très, très anciennes, où, dans lesquelles, par exemple, la compétence est attachée à une fonction et on distingue la personne qui est compétente pour assumer cette fonction par rapport à celle qui ne le serait pas. Et du coup, on est parti sur des définitions de la compétence qui posent énormément de problèmes, malgré une littérature extrêmement importante. D'où, me semble-t-il, la nécessité de clarifier d'un point de vue théorique ce qu'il y a derrière la notion de compétence. Et c'est un petit peu ce que je vous propose de faire pour dépasser les conceptions classiques de la compétence. Parce que, je disais tout de suite, ces conceptions classiques de la compétence posent des problèmes. Alors, quel type de problème ? Alors, par exemple, ce découpage très classique consistant à présenter la compétence comme constituée de savoir, de savoir-faire et de savoir-être, pour des définitions très générales, et dans le champ de l'éducation et de la formation, des connaissances, des capacités, voire des aptitudes, ça dépend si on est en France ou bien au niveau européen, et des attitudes. C'est une autre façon de décliner, en fait, savoir, savoir-faire et savoir-être. Dans les deux cas, ce qui pose problème, c'est cette conception nominaliste de la compétence. On nomme de quoi elle est faite, et statique, parce que la compétence est posée comme une juxtaposition simple de savoir, de savoir-être, de savoir-faire, de connaissances, de capacités ou d'attitudes. Alors, pourquoi est-ce que ça pose problème ? Eh bien, parce que, évidemment, quand on pose les choses de cette manière, on va construire des référentiels de compétences qui se présentent de cette manière-là. Hein, j'ai pris l'exemple du référentiel de compétences que constitue le socle commun de connaissances et de compétences qui a été élaboré en 2006 pour l'enseignement élémentaire. Et donc, qu'est-ce qu'on a ? On a des connaissances, des capacités et des attitudes qui sont traitées de façon complètement indépendante les unes des autres Et évidemment, ce qui ressort de tout ça, c'est que on a bien quelque chose qui est de l'ordre de la compétence, qui correspond ici à des capacités, mais qui sont des compétences très générales, on pourrait dire définies de façon absolue. Prendre la parole en public, ben oui, d'accord, prendre la parole en public, mais quand on prend la parole en public quand on est novice, ou qu'on prend la parole en public quand on est expert, c'est pas du tout le même type de compétence. Donc on est sur des compétences qui sont définies indépendamment de niveaux de compétences qu'on pourrait imaginer pour précisément construire un dispositif de formation. Quand on regarde du côté des connaissances, eh bien, on se rend compte que finalement, on retrouve là, grosso modo, les programmes antérieurs, donc pas de différence véritablement avec les programmes antérieurs. Et quand on regarde du côté des attitudes, eh bien, finalement, on se rend compte que ces éléments, que ces attitudes ne sont rien d'autre que des éléments de conduite attendus socialement, sans plus, sans qu'on sache, évidemment, comment on les met en œuvre, d'une part, et comment on les construit, d'autre part. Donc, pas de référence au processus de mobilisation et de construction de ces compétences, et du coup, on reste sur une focalisation des interventions qui se retrouvent focalisées sur les connaissances, d'une part, et, par ailleurs, on évalue ces compétences essentiellement en termes de performance. Et de façon sous-jacente, on voit bien que l'idée de la compétence qu'on a derrière ça, c'est une idée qui consiste à dire ben, finalement, la compétence, c'est la mise en œuvre de connaissances dans des situations particulières. Hein, d'où cette idée de mise en œuvre de connaissances pour produire une performance dans des situations particulières. Alors, par rapport à ça, il me semble qu'on peut faire beaucoup mieux si on se dote d'une définition de la compétence qui soit un peu plus élaborée que celle qui est classiquement utilisée, et c'est ce cadre alternatif que je vous propose d'expliciter. D'abord, pour dire qu'une conception alternative de la compétence, ça consiste à considérer la compétence comme étant liée au traitement par un individu, voire par un collectif. Vous verrez tout à l'heure, je ferai un parallèle entre compétences individuelles et compétences collectives. Donc, c'est placer un individu en situation de traiter une tâche dans une situation donnée. On a souvent insisté dans la littérature sur le fait que la compétence, c'est en situation qu'elle se manifeste. Hein. Donc, c'est en traitant une tâche dans une situation donnée. Pour traiter une tâche dans une situation donnée, qu'est-ce qu'on mobilise ? Eh bien, on mobilise des compétences qui sont déjà là. Autrement dit, on n'est jamais naïf devant une tâche ou devant une situation. On a toujours quelque chose de déjà construit qu'on peut mobiliser dans cette situation-là. Alors, si on pose les choses de façon plus théorique, on va dire on a toujours à disposition des schèmes d'action, hein, c'est-à-dire des organisations de l'activité préconstruites qui permettent effectivement de faire face à cette situation nouvelle ou à cette tâche nouvelle qu'on a à traiter. Autrement dit, on a bien un potentiel d'action avec ces compétences qui sont déjà là. Ce potentiel d'action, bien sûr, on va le mobiliser pour traiter la tâche. Donc on a une activité mobilisée. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que théoriquement, cette activité mobilisée est toujours médiatisée par des artefacts, hein, c'est-à-dire des outils matériels ou symboliques, le marteau, la scie, la clé anglaise, ou l'ordinateur, ou symboliques, par exemple, le langage, des tableaux, des schémas, des cartes, etc., tout un tas d'éléments qui sont des construits sociaux en général et qu'on utilise effectivement pour réaliser l'activité. Et en général, on s'arrête là. Sauf que on ne tient pas compte de quelque chose qui est tout à fait fondamental, c'est que chaque fois qu'on agit, en même temps, on se construit. C'est ça, se construire à partir de son expérience. Chaque fois qu'on agit, on se construit. Donc on a une activité constructive qui relève des régulations de cette activité mobilisée au départ et qui permet effectivement, au fur et à mesure, d'ajuster l'organisation de cette activité. Alors, ce deuxième aspect-là est tout à fait fondamental, surtout en formation, parce que, évidemment, ce qu'on cherche en formation, c'est à ne pas en rester à la compétence déjà là, mais c'est à la faire évoluer vers de nouvelles compétences, vers de nouvelles organisations de l'activité, donc fabriquer, en quelque sorte, de nouveaux schèmes ou réorganiser les schèmes qui sont déjà là. Et évidemment, cette activité mobilisée, cette activité régulée constitue une activité située ici et maintenant pour traiter cette tâche-là dans cette situation-là. Et c'est une compétence qu'on pourrait qualifier de compétence effective. Et dans le travail préparatoire qu'on a fait avec Catherine, on a pas mal travaillé sur cette idée de compétence déjà là, compétence effective, voire ensuite compétence formalisée pour ou explicitée pour aller plus loin. Partant de cette idée, on peut définir la compétence de la manière suivante. La compétence, c'est une organisation dynamique parce que le schème, c'est dynamique. Je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi. C'est une organisation dynamique de l'activité, mobilisée et régulée par un sujet ou un collectif. De mon point de vue, il n'y a pas de différence en termes de processus entre ce qui se passe pour la mobilisation et la régulation d'une compétence individuelle et la mobilisation et la régulation d'une compétence collective. On peut décrire les choses avec le même modèle. Et bien sûr, pour faire face à une tâche donnée dans une situation déterminée, j'ai insisté là-dessus. Au-delà de ça, il me semble qu'il faut insister aussi sur deux propriétés cruciales de la compétence. La première, c'est celle qui consiste à dire qu'une compétence se déploie toujours simultanément sur trois plans. Le rapport à la tâche, bien sûr, mais également le rapport à autrui, parce que chaque fois qu'on est engagé dans une tâche, on est engagé aussi dans un rapport social avec les gens qui sont autour de nous, effectivement présents, mais aussi avec tous ceux qui sont marquants pour nous et qui ne sont pas présents, mais qui sont malgré tout présents. Par exemple, on a tous des maîtres, on en parlait à propos des universitaires. Hein, comment se fait-il que les étudiants qui ont un enseignement à donner reproduisent systématiquement l'enseignement qui a été produit par leur prof? Eh bien parce que, évidemment, quand ils enseignent, le prof n'est pas là, leur prof n'est pas là, mais c'est comme s'il était là parce qu'ils font exactement ce qu'ils lui ont vu faire. Hein? Et donc, on est bien dans cette situation où on a toujours un rapport à autrui lorsqu'on réalise une activité. Et puis un rapport à soi parce qu'il y a tout un tas de comportements que l'on a et qui sont dirigés vers soi. Hein? L'enseignant va s'interdire un certain nombre de gestes ou de paroles vis-à-vis de ses étudiants parce que c'est socialement inacceptable et donc il y a bien toute une activité par rapport à soi. Alors ces trois aspects sont extrêmement importants à prendre en compte ou à garder à l'esprit parce que ça permet de régler grâce au même modèle toutes les problématiques qui sont en général traitées de façon très différente, y compris en psychologie, hein, où on a de la psychologie cognitive, où on s'intéresse aux connaissances, au traitement des tâches, et puis on a de la psychologie sociale, où on s'intéresse au rapport avec autrui, et puis on a de la psychologie clinique, où on est plutôt sur des aspects d'identité, etc. Donc tout ce qui concerne le rapport à soi et le rapport aux autres aussi en partie, mais en tout cas avec des approches très, très séparées. Ici, il suffit de dire on a trois types de schèmes qui se mobilisent systématiquement, quelle que soit la tâche que l'on a à traiter, un rapport à la tâche, un rapport à autrui et un rapport à soi. Deuxième caractéristique fondamentale de la compétence, c'est que les compétences sont nécessairement hiérarchisées. Elles sont toujours inscrites dans des compétences surordonnées et elles impliquent toujours des compétences subordonnées. Alors, par exemple, sur le plan individuel, le niveau de base, ça peut être conduire, marcher, par exemple. Le niveau surordonné, se déplacer. Et les niveaux subordonnés, respecter le code, réguler sa vitesse, ce qui se fait en gérant les panneaux, en accélérant, en freinant, etc. Donc, on peut toujours décliner une compétence de façon plus générique ou de façon plus spécifique. De la même manière, si on s'intéresse au collectif, on peut décrire, et je l'ai fait avec des collègues, on peut décrire par exemple l'activité ou la compétence de l'industrie automobile, donc ça c'est le niveau supraordonné. On peut décrire le niveau organisationnel, donc comment se comporte un constructeur automobile, le niveau collectif à l'intérieur de cette entreprise, comment différents collectifs s'y prennent pour réaliser tel ou tel type de tâches aboutissant à la construction d'un véhicule automobile. Et au niveau individuel, évidemment, il y a des postes de travail et on pourrait évidemment après décliner encore par les compétences individuelles. Donc la compétence est toujours hiérarchisée. Quant aux processus qui sont en jeu, on a une activité productive. Catherine a évoqué cette idée, c'est un apport effectivement de Pierre Rabardel. Une activité productive dans le sens où une compétence, on la mobilise toujours pour faire quelque chose, donc pour obtenir un résultat et via des artefacts que l'on met en œuvre pour médiatiser cette activité. Cette activité productive, elle peut être déclinée en termes de processus en disant elle est toujours finalisée en quelque sorte avec des anticipations des résultats que l'on va obtenir. Autrement dit, chaque fois qu'on engage une activité, on anticipe les résultats qu'on va obtenir, d'une façon pertinente ou pas, mais en tout cas, on anticipe les résultats que l'on va obtenir. On met ensuite en œuvre des règles d'action, c'est-à-dire toutes les actions qui vont effectivement permettre de produire le résultat attendu. On va mettre en place également des inférences qui vont permettre, en fonction des caractéristiques de la situation, de mobiliser tel ou tel type de règles d'action, parce qu'on a toujours le choix entre plusieurs règles d'action. En général, on ne sait pas faire quelque chose d'une seule manière, mais on sait le faire de plusieurs manières, et selon les circonstances, c'est plus ou moins adapté de le faire comme ceci ou bien de le faire comme cela. Et évidemment, toute cette activité-là n'est possible que dans la mesure où elle est supportée par des conceptualisations, c'est-à-dire dans le vocabulaire de Gérard Vergniaud, pour rendre compte du concept de schéma, en termes d'invariants opératoires, c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire à la justification de l'activité. Alors c'est des connaissances, mais ce sont aussi des valeurs, ce sont des croyances, ce sont des normes, etc. Enfin, il y a tout un tas de choses qui justifient qu'on réalise l'activité qu'on conduit. Et puis, quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup, c'est des conceptualisations qui permettent de repérer dans la situation et sur la tâche les éléments qui sont pertinents à prendre en compte. Et ce sont les concepts en acte chez Vergniaud, c'est-à-dire cette idée que quand on s'engage dans une activité, tout d'un coup, c'est comme avec la réalité augmentée, il y a des éléments que l'on focalise comme étant pertinents à prendre en compte et puis d'autres qui sont indifférents par rapport à cette activité-là. Et donc, ces deux éléments de conceptualisation sont tout à fait importants à prendre en compte dans la notion de compétence. Et puis, évidemment, en fonction des résultats qu'on a déjà obtenus en mobilisant la compétence de cette manière-là, on va réguler son activité. Alors, de trois manières, vous voyez, et ça c'est l'activité constructive, on régule de trois manières. Soit on peut changer les règles d'action, si le résultat qu'on a obtenu n'est pas conforme aux attentes. Soit on peut modifier ce qu'on tenait pour vrai et qui justifiait l'activité ou ce qu'on tenait pour pertinent, c'est-à-dire ce qu'on avait initialement focalisé comme étant important à prendre en compte. Ou alors considérer qu'on doit changer carrément l'organisation de l'activité, c'est-à-dire changer de schéma. Et donc on a trois modes de régulation qui évidemment ne sont pas du tout équivalents les uns par rapport aux autres. Et ce qui me paraît important aussi, c'est de souligner ici les trois niveaux d'adaptation de la compétence. La compétence, elle s'adapte une première fois lorsqu'on ajuste un schéma qui est déjà là, qui est déjà construit pour cette circonstance particulière ou ces circonstances particulières, cette tâche-ci dans cette situation-là. On l'adapte une deuxième fois avec les outils qu'on utilise parce qu'on est obligé de prendre en compte les propriétés de ces outils. Écrire un texte avec Word, ce n'est pas du tout la même chose que l'écrire avec son stylo BIC. Et troisième type d'adaptation, c'est évidemment l'adaptation en fonction des résultats obtenus. Donc on voit bien que la compétence, c'est dynamique et que la poser en termes de savoir, savoir-faire, savoir-être, ça pose problème. Modèle, deuxième modèle, donc là je vous présente MADIC, qui est, donc ce que je viens de vous présenter c'était MADEC, ce que je vous présentais maintenant MADIC, qui est tout simplement décliné de MADEC, parce que lorsqu'on regarde par exemple les situations d'enseignement, on peut considérer que des élèves confrontés à une tâche vont mobiliser des invariants opératoires, des inférences, des règles d'action, des anticipations, utiliser des artefacts pour traiter cette tâche-là. Hein. Et ils vont le faire sur les trois plans que j'évoquais tout à l'heure, d'où la flèche à triple ligne, hein, rapport à la tâche, rapport à autrui et rapport à soi. Et par rapport à ça, que fait... bien sûr, il y a les feedbacks qui vont être produits, qui vont leur permettre de réguler leur activité. Et par rapport à ça, que fait l'enseignant? Eh bien, il a à sa disposition toute une palette d'actions possibles. Il peut agir sur la tâche, sur les feedbacks, sur les artefacts, sur les régulations, les anticipations, les règles d'action, les inférences, les invariants opératoires, l'élève dans sa globalité, les situations, bref, tout ça pour faire deux choses qui sont tout à fait fondamentales. D'une part, comprendre ce qu'est l'activité des élèves confronté à cette tâche-là, dans cette situation-là, et d'autre part, agir sur cette compétence d'une façon ou d'une autre. Il n'est pas obligé, effectivement, d'agir sur l'ensemble. Oui. Oui, alors, par exemple, s'il travaille sur la tâche, il peut rendre la tâche plus facile ou plus difficile, hein, selon, effectivement, ce qu'il constate du point de vue de l'activité des élèves qui travaillent sur cette tâche. S'ils travaillent par exemple sur les artefacts, on va revenir sur, notamment quand je parlerai des objectifs pédagogiques, je reviendrai sur ces questions-là, mais je peux déjà effectivement donner quelques exemples pour clarifier. S'ils travaillent sur les artefacts, il peut par exemple proposer la même tâche, mais en donnant des artefacts pour la réaliser complètement différents. Et les propriétés de ces artefacts étant choisies de telle sorte qu'elles perturbent les conceptions, par exemple, qui ont été mobilisées par les élèves, les invariants opératoires qui ont été mobilisés par les élèves pour réaliser cette tâche. Et du coup, pour les amener à réguler leur activité en boucle longue, c'est-à-dire sur les invariants opératoires. Hein, vous voyez, il y a tout un tas de possibilités qui sont offertes ici à l'enseignant pour agir sur les compétences des élèves. Ça va ? Oui, alors, si vous voulez bien, pour terminer, je vais terminer ma présentation et je reviens là-dessus sur des questions pour pouvoir tenir compte du temps parce qu'il ne faut pas dépasser, je pense, 15 heures pour qu'on puisse avoir la vidéoconférence. Alors, si je poursuis, je vais poursuivre justement en essayant de montrer comment on peut opérationnaliser. Et vous allez voir, il y a une partie qui devrait répondre à votre question. Alors, comment opérationnaliser tout ça? Eh bien, par exemple, par rapport à la conception de la formation. La conception classique de la formation, ça consiste à, pour l'enseignant, à se doter de ses savoirs académiques et à les transmettre à l'apprenant de telle sorte que ces savoirs académiques se transforment en connaissances. Alors, moi, je fais toujours une distinction entre savoir et connaissances, les savoirs étant collectivement partagés, alors que les connaissances sont propres aux individus. Si on regarde du côté de l'approche par compétence, c'est d'abord beaucoup plus compliqué que ça, et on peut remarquer que, à côté des savoirs académiques, eh bien, on a des savoirs sur le développement des compétences, D'où la nécessité du détour théorique que je vous propose. Parce que si on ne sait pas ce qui se passe dans l'activité des élèves, on a beaucoup de mal à faire autre chose que de l'empirique et de l'intuitif, de ce point de vue. Par contre, si on a bien réfléchi à ce que sont les invariants opératoires, les règles d'action, les inférences, etc., alors là, on commence à avoir des outils, ou les régulations, on commence à avoir des outils pour travailler de façon moins intuitive. Bien entendu, ce qui est important ici, c'est les doubles flèches ici, on n'est plus dans une simple flèche, parce que l'enseignant travaille autant à prélever de l'information sur ce qui se passe dans l'interaction apprenant-tâche que à fournir des aides, effectivement, pour que ça se passe mieux. Et il permet, effectivement, de construire, bien sûr, des connaissances, mais au-delà des connaissances, il permet de construire des normes, des paramètres de situation à prendre en compte, des valeurs à développer, des règles d'action, etc. Et on voit bien que le travail de l'enseignant ne se limite pas à construire des connaissances. Oui.
J'aimerais savoir pourquoi au niveau de la flèche, d'abord académique, ça transite toujours directement par l'enseignant et après par l'apprenant.
Il peut y avoir effectivement une flèche directe parce qu'effectivement les étudiants peuvent aller directement au savoir académique via notamment tous les documents qui sont à leur disposition. Et Internet en particulier, et en général, ils ne s'en privent pas. Hein, bien sûr, bien sûr. Mais évidemment, si on parle de l'activité de l'enseignant, hein, c'était ça ma préoccupation, c'était dire, bon, si on fait de l'approche par compétence du côté de l'enseignant, c'est bien pour faire transiter des savoirs académiques autrement qu'en les délivrant et en espérant que ça se transforme en connaissances. Les deux mots-clés, c'est d'un côté, on enseigne, et de l'autre, on met en œuvre une aide aux apprentissages. Et ça change tout. Et moi, j'ai mis très longtemps à le dire de cette manière-là, mais je trouve que c'est une façon de poser les choses qui est relativement simple et qui permet de sauter le fossé qu'il y a entre l'approche traditionnelle et l'approche par compétences. Quant à la description des compétences visées, dans l'approche traditionnelle, quand on fait un référentiel de compétences traditionnellement en approche par compétences, eh bien voilà ce qu'on fait. J'ai pris l'exemple du psychologue avec le référentiel de compétences qui a été proposé par Europsy, hein, qui est l'instance qui s'occupe de la certification européenne pour les psychologues. Et on voit que les compétences sont déclinées de façon très logique parce qu'on dit ben, qu'est-ce qu'il doit faire le psychologue ? Il doit définir les objectifs de sa prestation, il doit recueillir des données, il doit développer une conception de son intervention, il doit faire son intervention et il doit évaluer son intervention. Tout ça est parfaitement correct et on l'a fait sur la logique du métier. Mais par contre, si on réfléchit dans les termes que je vous ai proposé d'utiliser, alors la liste des compétences est organisée en référence à un modèle et la description selon le modèle des compétences permet d'aller beaucoup plus loin dans le détail. Et je vais vous donner deux façons, une façon macroscopique d'aller plus dans le détail et une façon microscopique d'aller plus dans le détail. Alors une façon macroscopique, c'est celle-ci qui consiste à dire mais le psychologue, eh bien, son boulot, c'est de comprendre les conduites humaines et d'agir directement ou indirectement sur les conduites humaines. Deux compétences fondamentales de base. Et on peut les décliner sur les trois plans, rapport à la tâche, rapport à autrui, rapport à soi. Et dans les cases du tableau, on peut lister un certain nombre de compétences. Mais vous voyez que l'organisation n'est pas du tout celle qu'on avait tout à l'heure, pour décrire ses compétences et que ça permet certainement d'aller beaucoup plus loin, notamment lorsqu'on essaye de trouver une cohérence sur les trois colonnes de ses compétences à construire en formation de psychologue. Une façon maintenant de décrire de façon fine les compétences, eh bien, c'est d'utiliser le modèle en essayant d'utiliser l'ensemble des éléments qui constituent les compétences. Donc, La colonne de gauche ici renvoie aux anticipations, règles d'action, inférences, invariants opératoires, artefacts utilisables et feedback qui peuvent permettre de fonder les régulations de l'activité. Et on peut décliner ici toutes les compétences qui sont organisées de cette manière-là. Et vous voyez qu'on peut aller très loin et que l'objectif n'est pas nécessairement d'être exhaustif, mais d'avoir des idées sur qu'est-ce qui serait particulièrement intéressant de mettre en œuvre du point de vue des compétences à former chez un psychologue quand on forme un psychologue. De la même manière, je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas mettre en place une approche par compétences sans se préoccuper des compétences à long terme, c'est-à-dire des activités professionnelles ou des activités futures des étudiants dans leur cursus. Et pour savoir ce que sont ces compétences professionnelles ou ce que sont ces compétences d'un étudiant plus avancé dans le cursus, eh bien, on peut construire des entretiens sur la base du modèle qui permettent d'aller interroger les gens. Et voilà un exemple d'entretien que l'on peut construire pour de trames d'entretien que l'on peut construire pour aller interroger des compétences expertes, par exemple. Hein, quel résultat attendez-vous de cette activité? À quoi peut-on juger la qualité de cette activité? Ou je prends par exemple sur les théorèmes en acte, qu'est-ce qui justifie que vous organisez votre activité ainsi? Y a-t-il des connaissances, des valeurs, des principes, des croyances, des normes, etc. qui vous conduisent à réaliser ainsi votre activité? Donc vous voyez, on a tout un tas de questions qui sont motivées théoriquement et qui permettent effectivement d'aller analyser des compétences pour savoir qu'est-ce que c'est qui est crucial. Et évidemment, l'idée c'est d'exploiter ça, notamment à travers des comparaisons d'entretiens réalisés avec des professionnels novices ou avec un étudiant plus avancé dans le cursus, mais pas beaucoup plus avancé dans le cursus, par rapport à des professionnels experts ou des étudiants beaucoup plus avancés dans le cursus. Et en comparant les deux sur la manière dont ils répondent aux mêmes questions, on se rend compte qu'il y a des dimensions qui sont privilégiées. Moi, j'ai fait ça avec une étudiante sur des opérateurs chez Michelin qui fabriquait des câbles pour les pneus, et on voit bien que le novice dit des choses qui sont complètement différentes de celles que propose l'expert. L'expert, par exemple, dit « moi, je ne règle pas la machine du tout de la même façon le lundi matin que les autres jours parce que la machine est froide ». Et ça, le novice, ça lui passe complètement au-dessus de la tête. Il fait pas ça. Par contre, lui, il détaille tout un tas d'actions qu'il met en œuvre, là où le professionnel, lui, confirmé, donne des compétences d'un niveau très général. Si vous décrivez, par exemple, la conduite automobile, si vous êtes novice, vous allez dire ouais, « je prends le levier de vitesse dans ma main droite, j'enclenche la première, etc. » Alors que le conducteur expérimenté, il dit « je démarre ». Et ça suffit, parce que tout le reste, c'est complètement automatisé et ça ne fait plus problème pour lui. Donc, on peut tirer effectivement de ça plein d'enseignements pour construire une formation. Et on peut construire à partir de là des objectifs pédagogiques. Donc, en utilisant MADIC pour construire des objectifs pédagogiques, et ça répond un petit peu à la question que vous posiez tout à l'heure. Alors, comment est-ce qu'on peut formaliser ça? Eh bien, par exemple, se fixer comme objectif ici de traiter la même tâche dans différentes situations. Donc, traiter la même tâche dans différentes situations, voilà une compétence que... Voilà un aspect de la compétence que l'on ne met pas suffisamment en évidence en formation. Parce que, en général, on entraîne peu les étudiants à travailler sur la même tâche dans des situations variées. En général, on a quelques situations prototypiques et on s'en tient à ça. Et évidemment, on les prive de toute l'adaptation liée aux inférences, c'est-à-dire de toute cette adaptation qui consiste à choisir les règles d'action en fonction des caractéristiques de la situation. De la même façon, on peut travailler sur des types de tâches de résolution de problèmes, par exemple, parce que les types les tâches de résolution de problèmes, notamment lorsqu'on les fait travailler en groupe, permettent à l'enseignant de tirer des informations sur la manière dont s'y prennent les étudiants pour traiter ces tâches-là. Et du coup, ça peut lui donner des idées à l'enseignant pour réguler l'activité des étudiants. On peut utiliser différents outils pour réaliser la même tâche avec le même objectif. Hein, la variabilité des propriétés des outils va certainement déclencher des activités différentes. On peut tirer parti de différents feedbacks. Par exemple, on peut avoir comme objectif de fournir des feedbacks systématiquement orientés vers les règles d'action ou fournir des feedbacks systématiquement orientés vers les invariants opératoires. Par exemple, on peut dire systématiquement à l'étudiant, tu t'y es pris de cette manière-là, est-ce que tu peux t'y prendre d'une façon différente ? Imagine plusieurs façons de t'y prendre pour réaliser cette tâche-là. Donc ça, c'est une focalisation sur une régulation en boucle courte. Maintenant, si on veut focaliser sur la régulation en boucle longue, on va dire, pourquoi tu as obtenu les résultats que tu as obtenus ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Est-ce que tu as des principes qui ne sont pas bons dans ce que tu... Est-ce qu'il y a des connaissances qui te manquent, des choses de ce type-là ? Et du coup, là, on travaille sur un autre type de régulation. On peut également, par exemple, identifier les circonstances à prendre en compte, les éléments de circonstances à prendre en compte. Donc, en focalisant, en disant, bon, pour réaliser cette tâche-là, qu'est-ce qu'il est important de prendre en compte ? Et on voit que là, on va se focaliser, on va avoir différents types d'objectifs pédagogiques qui sont directement déduits du modèle et qui ne sont pas nécessairement toujours traités autant qu'il le faudrait dans les formations qu'on propose aux étudiants en général. Est-ce que ça répond mieux à votre question ? Non, j'y reviendrai en tout à l'heure alors. OK. De la même façon, on peut guider la réalisation de portfolios. Hein, c'est-à-dire que de la même façon qu'on peut construire un référentiel de compétences qui soit pertinent pour l'ensemble des étudiants, on peut construire des portfolios qui ont pour objectif de répertorier les différentes compétences et de les organiser en fonction de l'orientation vers la tâche, vers autrui et vers soi, en demandant aux étudiants de les formaliser au fur et à mesure, qu'ils pensent les avoir acquises, et du coup, permettre d'avoir une compétence explicitée par les étudiants eux-mêmes. Alors, on peut le faire de façon globale, de cette manière-là, mais évidemment, rien n'interdit de le faire de façon beaucoup plus détaillée, en reprenant systématiquement les différents éléments constitutifs de la compétence. Alors, qu'est-ce que l'approche programme en formation ? Ben, c'est certainement la description des compétences visées, d'une part, qui conduit à la construction d'un référentiel de compétences. C'est également, à partir de là, la description des modalités de développement de ces compétences effectives, c'est-à-dire toute la mise en œuvre qui va permettre aux étudiants de se construire, ou de mobiliser, d'une part, et de construire les compétences visées. Et dernier point, c'est probablement aussi amener à de l'explicitation de compétences, notamment par rapport à l'idée de supplément au diplôme, où on peut essayer de faire formaliser de façon individuelle des éléments de compétences effectivement acquises. Et on voit que la référence à la théorie n'est pas inutile, puisqu'on peut se référer à MADEC et à MADIC pour réaliser ce type de mise en œuvre de l'approche programme. En conclusion, si on veut dépasser l'enseignement traditionnel, eh bien, il faut commencer probablement par organiser une approche programme qui consiste à mettre en cohérence la formation proposée par les différents intervenants de la formation. C'est également promouvoir l'approche par compétence, c'est-à-dire focaliser sur l'organisation de l'activité. J'ai mis volontairement ces deux photos pour symboliser ça. C'est l'activité de l'apprenant, photo de gauche, et l'activité que l'on vise, par exemple celle du professionnel, mais ça peut être celle de l'étudiant plus avancé. Et enfin, outiller l'approche par compétence, parce que si on n'a aucune idée de la manière dont se met en œuvre et se régule une activité, évidemment, ça devient compliqué de faire autre chose que ce qu'on fait traditionnellement, c'est-à-dire d'approcher l'enseignement de façon relativement intuitive. Et évidemment, en faisant tout ça, eh bien, on construit une compétence collective parce que les enseignants vont pouvoir échanger et se construire une véritable compétence collective à mettre en œuvre des formations. Et on n'insiste pas non plus assez souvent sur cet aspect-là. Voilà, alors j'en ai terminé. Il nous reste 10 minutes, je pense, pour discuter. Donc je suis prêt à répondre à vos questions.